Nous lisons dans le livre des Rois, deux Rois au chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Tout le chapitre, c'est l'histoire de Naaman. Il est écrit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? » Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agira, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voya courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre deux talents. » Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, lui dit, « Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà, c'est l'histoire de Naaman, un général de l'armée syrienne. La Syrie, à l'époque, était un très grand pays qui asservissait les autres pays alentours. Et Naaman, maintenant, était le général le plus apprécié de son maître, du roi de Syrie. Il est écrit au verset 1er, « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Donc le verset 1er résume toute notre histoire. C'est que Naaman était très riche, puisqu'il était général de l'armée, de la grande armée de l'époque. Naaman était aussi apprécié de son roi. Et mieux encore, il était vaillant et fort. Vous savez, partout il y a toujours des infiltrés, des gens qui ne méritent pas un poste. Et ils sont là quand même, ministres ou autres. Mais Naaman méritait son poste de général. Il est dit qu'il était vaillant et fort. Donc la nature avait pourvu à Naaman de belles choses. La force, la vaillance, le poste de général. Dieu lui avait donné tout ça. Mais il y avait un souci, c'est qu'il était lépreux. L'histoire de Naaman, c'est l'histoire de chaque homme. On a beaucoup de belles choses, chacun. Mais il va y avoir quelque chose qui va nous rappeler que nous sommes limités, que nous sommes faibles. Vous savez, ces choses-là dont on dit, « Ah, si j'avais seulement ça, tout serait bien. » Il y en a qui sont beaux, forts, belles, riches, mais ils se disent, « Ah, je ne suis pas marié. Si seulement j'étais marié. » Donc chacun va avoir quelque chose. Il y en a qui vont être même stars de cinéma, riches, mais qui vont dire, « Ah, si j'avais seulement de belles jambes. » Donc il y en a qui vont chercher ça. Il y en a qui vont dire, « Mais si j'avais seulement de beaux yeux, ça serait parfait. » Il nous manque toujours quelque chose pour que tout soit parfait. Et la plus grave des choses qui nous manquent, c'est la vie éternelle. Parce qu'on peut même tout avoir, la beauté physique, la richesse, tout complet, ne pas être malade. Mais un jour, on doit mourir. Et ça aussi, c'est un frein pour avoir une joie et assurance totale. Donc il y a quelque chose qui nous gêne toujours. Naaman avait tout, mais il avait un problème, il était lépreux. Et souvent, on a tout, mais il y a un problème qui nous gêne. On peut être même jeune, 15 ans, 16 ans, se sentir fort, vivant. Vous savez, la vie est une puissance. Être vivant, c'est une puissance parce qu'on a l'impression qu'on meurt, on ne mourra pas. On a l'impression qu'on ne va pas vieillir quand on est jeune. C'est une puissance. Mais il y a toujours quelque chose qui va gâcher. Il y en a qui vont avoir tout, mais ils ont une mauvaise femme. Il a tout, elle a tout, mais elle a un mauvais mari. Il y a toujours quelque chose qui fait que la fête est gâchée et ça nous ramène à reconnaître que nous sommes limités. Naaman avait tout, mais un point qui gâchait les affaires. On peut avoir tout, mais on a des problèmes de mémoire. On peut avoir tout, mais on a des problèmes de cheveux qui se cassent. Il y aura toujours quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas totalement à l'aise. Et Naaman, son problème, c'est qu'il était lépreux. Il avait tout, mais il était lépreux. Nous allons parler de la lèpre de Naaman comme une sorte de mort. Mais nous comparons cela à la vie éternelle. C'est-à-dire que Naaman était privé d'une assurance totale parce qu'il était lépreux. Et nous, les humains, nous sommes privés parce que quelqu'un me dira peut-être que non, moi je suis milliardaire, j'ai tout, j'ai des enfants, je suis marié, j'ai une bonne femme, tout. Mais il y a quand même le problème de la mort qui va être un embêtement. À quoi ça sert d'être milliardaire si on doit mourir un jour? À quoi ça sert d'être le plus beau si on doit mourir un jour? Un mort n'est jamais apprécié même s'il était le plus beau. Donc la mort va venir quand même gêner dans cette affaire. Mais je sais que si on est sincère, on va chacun de nous reconnaître qu'on aurait aimé être différent de ce que nous sommes. On aurait aimé avoir autre chose que ce que nous avons aujourd'hui. Peut-être les mêmes choses, mais en mieux. Il y a quelque chose qui gâche. Maintenant, ce quelque chose qui gâche est là pour nous rappeler que l'homme est imparfait et a besoin de Dieu. Ce quelque chose qui gâche là, Dieu s'en sert pour créer le contact avec nous, pour venir nous dire, je veux te sauver du péché, je veux te sauver de la mort, parce qu'un jour tu mourras. Mais moi j'ai le secret de la vie, je peux te donner l'éternité au paradis, là où tu ne mourras plus. Alors que si tu meurs dans ton péché, tu vas en enfer, brûler éternellement. Dieu se sert de ces lacunes que nous avons dans nos vies pour nous parler. Vous imaginez que la Syrie, c'était un pays avec ses dieux. Ils ne connaissaient pas ces gens-là, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Ils ne le connaissaient pas. Mais l'exemple de Naaman est là pour nous dire que Dieu se révèle à tout homme, où qu'il soit, un jour dans sa vie, le véritable Dieu cherche un contact avec tout homme, quel qu'il soit. Parce que j'entends souvent des chrétiens qui disent, mais oui, mais pasteur, il y a des endroits où on n'entend pas parler de Jésus. Comment ces gens-là seront jugés? Mais l'exemple de Naaman est là pour nous calmer, nous rassurer, nous assurer que Dieu va chercher tout homme et lui parler clairement. Dans la vie de tout homme, il y aura un jour où il fera face à Dieu d'une manière claire. Maintenant, c'est lui qui décidera. Notre thème de ce matin, c'est si près du salut. On est, chaque humain est si près du salut. Si près. Mais est-ce qu'il le saisit? C'est là la question. Chaque humain est très près du salut. Parce que le salut, c'est Dieu qui vient en nous. Et il est écrit dans Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, l'apôtre Paul explique que Dieu laisse les hommes le chercher à tâtons, quoi qu'il soit près de chacun. Donc Dieu est près de chacun. Et un jour, il crée le contact. Parce qu'on a beau chercher, tant que lui ne crée pas le contact, on l'atteint pas. Mais quand on cherche de tout notre cœur, lui se révèle à nous. Un jour, même quand on ne cherche pas, un jour, lui, il se révèle à nous pour dire, tu as besoin de moi. La nature, tes imperfections montrent que tu as besoin de moi qui suis parfait. Le fait que tu mourras un jour montre que tu as besoin de moi qui est le secret de la vie éternelle. Et un jour, Naaman a été contacté. Vous savez par qui? Par une petite fille. Une fille qui a été prise lors des guerres précédentes comme butin et qui était devenue esclave chez Naaman. Une petite fille qui dit mais à la dame, à la femme de Naaman, dit mais si le maître pouvait aller en Israël, il serait guéri. Je connais un prophète là-bas qui peut le guérir. Une petite fille. Vous vous imaginez quelqu'un comme Naaman avait dû essayer de trouver la guérison par plusieurs moyens. Il était riche, il était fort, puissant. Il avait dû essayer en cherchant les grands magiciens, les grands prêtres, des grandes personnalités. Lui-même pouvait, il avait dû faire ça. Mais Dieu vient toujours d'une manière simple. Il ne vient pas de manière à impressionner. Et c'est ça qui rend mauvais service aux humains. Parce que les humains sont orgueilleux. Ils veulent les choses qui tapent à l'œil. C'est une petite jeune fille qui dit, « Oh, mais si le maître pouvait être en Israël ?» Juste cette phrase-là. Nous, on a un prophète là-bas qui peut le guérir. Juste une phrase, bien-aimée. Mais c'était le contact avec Dieu. La phrase d'une jeune fille en plus. Ce n'est pas la phrase d'un homme costaud, sage, réputé, intelligent. C'est une jeune fille qui dit, « Oh, si le maître pouvait être en Israël. » Et un jour dans ta vie, Dieu t'a contacté. Mais est-ce que tu as pris ça au sérieux? Le général a pris ça au sérieux parce qu'il n'avait pas le choix. Il avait dû essayer. Ailleurs, ça n'avait pas marché. Beaucoup me diront qu'ils ne sont pas lépreux ici et donc ils ne sont pas, au pied du mur comme le général. Ils ne sont pas à l'extrémité comme le général. Mais la mort, c'est notre extrémité. Un jour, nous mourrons. Donc, nous sommes tous au pied du mur. Nous sommes tous dans une impasse. C'est la question de la mort. Et si on est sincère, même la vie actuelle nous montre des obstacles. Même la vie actuelle nous fait connaître des misères. Si on est sincère, on doit reconnaître que ce n'est pas ce qu'on aurait aimé vivre. Ne serait-ce que ce qu'on vit en France. Mariage homosexuel, tout ce qu'on entend, la théorie du genre, où on va commencer à apprendre aux enfants à l'école que un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, ça se détermine avec le temps. On n'aurait pas aimé vivre cela. Donc chacun de nous, s'il est humble, il n'a pas à attendre de devenir lépreux pour dire « j'ai pas le choix ». Cet homme était tellement puissant qu'il fallait utiliser quelque chose de fort pour plier cet homme, pour faire fléchir cet homme. La lèpre l'a fait fléchir. Mais je te demande de ne pas attendre la lèpre pour fléchir. Parce que ça peut venir aussi. Autre chose de grave peut venir dans ta vie pour te faire fléchir. Mais mon conseil, ce n'est pas attendre quelque chose de grave. Juste que la mort, juste que le fait de vieillir, juste le fait que notre vie actuelle ne soit pas à 100% ce qu'on aimerait que ça soit, que juste ça nous fasse fléchir pour dire « tiens, je veux venir me confier à Dieu qui m'a créé afin qu'il prenne soin de moi. » Juste ça. N'attends pas que ça aille très loin. N'attends pas qu'il y ait une guerre en France pour te réveiller et dire « j'ai besoin de Dieu ». N'attends pas d'échouer à l'école. Juste maintenant, prends conscience que nous sommes limités et imparfaits et nous avons besoin de celui qui est parfait. C'est Dieu. Peut-être que tu te dis aussi, et c'est ça que nous allons déplorer à la fin, que tu connais déjà Dieu, mais ton cœur te dit aussi la vérité sur toi-même. Tu le sais toi-même. Aujourd'hui, viens à Dieu et abandonne-lui ta vie. Cet homme qui était lépreux, mais général, a fini par reconnaître qu'il avait besoin de Dieu. Parce qu'il était, sans moyen devant la lèpre. Il a écouté la voix d'une petite fille. Vous savez, beaucoup d'humains sont trop orgueilleux pour écouter les autres humains. Ils veulent que Dieu vienne comme un ange de 5 mètres pour leur parler. Mais Dieu a décidé d'utiliser les autres humains pour nous parler, bien-aimés. C'est ce qu'il a décidé. Comme là, il a utilisé une petite fille. C'est à prendre ou à laisser. Si Naaman n'avait pas saisi le contact, il se dit, mais qu'est-ce qu'une petite fille peut m'apprendre sur ma guérison? Est-ce que Naaman serait guéri? C'est pourquoi le titre, c'est « Si près de la guérison, si près du salut ». On est si près. Parfois, donc, c'est cette fille-là qui était le pont entre le salut et Naaman. Juste cette fille. Et parfois, c'est tellement simple. Juste une fille qui dit, « Ah, si le prophète, il était, si le monsieur, le maître pouvait être en Israël, il serait guéri. » Mais là, Naaman écoute, se dit, « Ah, il y a possibilité que les choses changent. Alors, je vais saisir cette possibilité, même si elle est menue, tenue, fine, petite, mais je vais saisir cette possibilité. » Et beaucoup dans ce monde entendent parler de Jésus. Mais ils veulent peut-être que Jésus vienne visiblement pour leur parler. Non, le Seigneur a décidé que ce sont ses serviteurs, ce sont les gens qui le connaissent qui vont parler à d'autres. Il peut, dans sa liberté, utiliser des rêves, utiliser des visions. Mais ça, c'est sa souveraineté. C'est, lui seul sait quand il le fait. Mais la voie officielle qu'il a décidé d'utiliser, c'est la voie des humains. Il a dit à ses apôtres, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est comme ça que les gens seront sauvés. Il a dit à ses enfants, allez annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est par des humains que Dieu va parler. Et aujourd'hui, les gens sont devenus tellement orgueilleux et égoïstes qui ne veulent plus de relations avec les humains que des relations d'intérêt. Comment ils vont utiliser les humains? Ils ne veulent pas, ils ne veulent plus de relations de soumission, de relations d'humilité avec les autres humains, de relations d'écoute. Ils sont devenus méfiants envers les autres humains parce que, soi-disant, ils se sont fait avoir autrefois. Oui, mais on a lu certains mardis le texte sur Moïse. On a vu que même que Dieu avait dit que Moïse c'est son véritable serviteur, on ne l'a pas du tout écouté. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, le véritable serviteur de Dieu. On ne l'a pas écouté par les gens vers qui il a été envoyé. Donc l'homme va toujours chercher des excuses pour ne pas écouter la voix de Dieu. En disant, mais oui, mais ce n'est pas sûr, mais est-ce que tu as voulu prospecter quand même? Et là, Naaman, qui est un général, écoute la voix d'une petite fille. Il se dit, oh, peut-être c'est là la possibilité. Pourquoi pas explorer par moi-même? Je vais aller voir par moi-même. Et il se déplace. Et il arrive en Israël avec toute sa suite. Vous imaginez un général? Il arrive avec toute sa suite et avec beaucoup de richesses en se disant, je donnerai ça à la personne qui va me guérir. Il arrive là, donc la comparaison qu'on peut faire, c'est que c'est comme si le plus grand général américain vient voir un médecin au Maroc ou bien en Tunisie, parce que ce médecin-là est exceptionnel, il arrive avec tout un avion, et il arrive là, le médecin ne le reçoit même pas. Le médecin va, il arrive à la porte, on ne le fait même pas entrer. Élisée envoie un de ses serviteurs lui dire, écoute, va plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain et ainsi tu seras guéri. Alors, le général étonné de cet accueil, il arrive dans un pays petit, dans un pays qu'il peut détruire en une guerre d'une semaine. C'est comme ça qu'on l'accueille. Par un monsieur quelconque, même s'il est prophète, mais qui est-il en comparaison avec lui, Naaman? Qui est-il? Il ne lui parle même pas. Il dit à quelqu'un d'autre, va lui dire d'aller se baigner, d'aller plonger 7 fois dans l'eau. Mais Naaman n'en revenait pas. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est écrit au verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Cette affaire nous apprend une leçon. Dieu ne sera jamais inférieur à un humain. Quand Dieu est en train de proposer le salut, ce n'est pas qu'il a besoin des humains. C'est par amour et par bonté. Il ne viendra jamais dire à quelqu'un que tu es plus grand que moi, j'ai besoin de toi. Et Élisée était le représentant de ce Dieu-là. Aujourd'hui, les gens aiment les flatteurs. Les pasteurs qui vont leur dire, frère, sans toi, l'église ne peut pas avancer. Ma sœur, c'est toi qui soutiens les femmes ici. On a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Les gens aiment écouter ce genre de flatterie, mais Dieu ne se rabaissera jamais comme cela parce que c'est nous qui avons besoin de lui. Dieu est très amour, il est bon. Alors il s'approche de nous pour nous sauver. Mais la deuxième phase, c'est qu'en s'approchant de nous pour nous sauver, il va nous informer que c'est nous qui avons besoin de lui. Il va nous montrer que c'est lui qui est grand. Que tu le veuilles ou pas, que ça te fâche ou pas, puisque c'est la vérité, lui, il veut dès le départ fixer les liens, montrer que c'est lui qui est grand. Dieu, ce n'est pas un vendeur de sandales, un vendeur de crème glacée qui va faire des klaxons dans les rues, point, point, pour appeler les enfants. Non! Supplier, acheter ma crème, faire des pubs, non! Il te présente le salut parce qu'il t'aime. Mais il ne veut pas que tu te trompes, que tu crois que tu es un client dont il a besoin pour ses affaires à lui. C'est toi qui as besoin de lui. Alors, il va, dès le départ, fixer la règle. C'est lui qui est grand, toi, tu n'es qu'un homme. Mais comment lui va fixer les règles quand il est invisible? Ben, il va utiliser ces gens à lui. Et Élisée ne sort pas. Il dit à Naaman, allez, va plonger cette fois. Alors Naaman est surpris parce qu'il se dit, mais Élisée, parce que lui, il voit Élisée, mais il oublie qu'Élisée, c'est le serviteur de Dieu que lui, il cherche pour sa guérison. Il oublie que Dieu passe par les humains. Bien aimé, nous nous revenons toujours au même problème. Le problème, c'est que Dieu passe par les humains. Et souvent, quand on a affaire à Dieu, on a en face de nous un humain. Et l'erreur, c'est de dire, de limiter la relation à l'homme qu'on a en qui est en face de nous. L'erreur, c'est de se dire, mais ce petit-là, pour qui il se prend pour me parler de Dieu? C'est ça, c'est cette erreur-là qu'il ne faut pas commettre. Dieu peut même se servir d'un homme mauvais pour nous dire la vérité. À nous d'être attentifs, de savoir si Dieu nous a parlé ou pas. Mais l'erreur, c'est déjà de limiter l'affaire à la relation humaine. En disant, oh mais c'est un homme, en disant, oh, mais c'est ma femme. Ou bien, oh, c'est mon mari. Et beaucoup se sont éloignés du salut parce qu'ils se sont dit, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon fils qui parle, c'est ma mère qui parle. Elle est toujours comme ça. Oh, le salut s'est trouvé dans cette bouche-là. Dieu est invisible. Il va passer par les humains. Si on n'est pas attentif, on va passer à côté du salut alors qu'il est si près. C'est ta femme qui était là, le pont. C'est ton mari qui était le pont. C'était peut-être ton fils ou ton père. Si près du salut, c'est-à-dire quand tu vas te retrouver en enfer, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. J'étais si près. C'était mon père qui était la porte. C'était mon cousin. Mais attends, je pouvais le voir à tout moment. Qu'est-ce qui m'a pris de ne pas l'écouter? C'était ma femme qui parlait au nom de Dieu. Mais comment je n'ai pas pu voir ça? Parce qu'il n'y a pas de respect pour Dieu. Quand on a du respect pour Dieu, on écoute sa voix, quelle que soit la source par laquelle elle passe. Parce qu'on a déjà du respect pour lui, et donc on ferme les yeux sur les sources, mais on fixe le regard sur ce que Dieu peut dire. Et parfois, bien-aimé, on va tomber sur les mêmes choses que Dieu nous dit. Et on va dire, mais c'est les humains qui ont tout préparé pour nous faire entendre ça. Non, c'est Dieu qui insiste parce que tu n'écoutes pas. Il te dit toujours la même chose. On dit, mais non, mais c'est les humains, ils me connaissent, alors ils me disent toujours la même chose pour m'obliger à changer. Non, c'est Dieu qui est en train d'insister. Même quand les gens nous connaissent, ah oui, ils peuvent toujours parler de la part de Dieu. Toi, regarde à ta relation avec Dieu. Et là, finalement, Naaman se décide à faire demi-tour. Vous imaginez, c'est des kilomètres à cheval. Ce n'est pas en TGV, ni en Concorde, à cheval, à pied. Et tu arrives là. Tu veux faire demi-tour juste parce que le monsieur ne t'a pas dit bonjour? Est-ce que Élisée a refusé de le guérir? Est-ce que Élisée a refusé de le guérir? Petite réponse, non. Donc, il n'avait pas de raison de faire demi-tour. Élisée n'a pas dit non, je ne veux pas te guérir. Il a fait parvenir le message. Tu vas être guéri en allant te plonger cette fois. Donc, rien n'était changé. Le programme était toujours là. Lui, il était venu pour quoi? Il était venu pour la guérison. Mais est-ce que le programme a changé? Non. Est-ce qu'on l'a invité à danser? Non. On a dit, pour la guérison, il faut faire telle chose. Mais lui qui était venu pour la guérison, son orgueil étant froissé, il a oublié qu'il était venu pour la guérison. Il commençait à chercher sa propre valeur alors qu'il était lépreux. Il a oublié qu'il était lépreux. Il s'est seulement souvenu qu'il était général. Alors, c'est ce qui nous arrive. Alors que nous cherchons Dieu, nous sommes près de Dieu. Au lieu de nous souvenir que nous sommes des hommes mortels, nous passerons un jour, comme passent beaucoup de gens aujourd'hui, par le cancer et autre chose. J'ai appris qu'une actrice très connue allait se faire couper ses deux seins parce qu'elle peut avoir un cancer, elle préfère les couper à l'avance. Vous imaginez, ça c'est le cas de Naaman là. Alors quand on est face à de telles situations, on nous dit mais la guérison est possible par tel moyen, on oublie qu'on est fini, qu'on est coincé, on commence à se rappeler juste qu'on est général, qu'on est fort, qu'on est ceci ou cela. Le programme n'a pas changé. On te dit seulement, va plonger cette fois. Ah non, mais moi je pensais qu'il allait me dire bonjour, il allait me parler avec compassion. Mais non, toi tu n'es pas venu pour tout ça, tu es venu pour ton salut. Tu es venu pour la relation avec Dieu. Et les gens oublient la priorité qui est le lien avec Dieu, il commence à s'intéresser à tout ce qui est autour. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Et on va négliger le message divin parce que ce qui est autour ne nous arrange pas. C'est ainsi que les Juifs n'ont pas accepté le message de Jésus parce que ce qui était autour ne les arrangeait pas. Eux, ils voulaient que Jésus dise « Nous sommes la plus belle nation. » Nous sommes les plus beaux hommes, les plus intelligents. Jésus a dit, non, vous êtes des pécheurs comme tout le monde. Ah, mais non, nous, on est fils d'Abraham. Il dit, vous vous prétendez fils d'Abraham, mais vous ne vous comportez pas comme Abraham, donc vous n'êtes pas ses fils. Il a dit, mais non, tiens, c'est un antinationaliste. On dit, mais est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Jésus prend une pièce de monnaie. Il dit, mais c'est l'effigie de qui? C'est le visage de qui sur la pièce? Mais c'est le visage de César. Ah ben, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ces gens disent, mais non, il n'est pas nationaliste, il n'aime pas notre peuple. Comment il peut nous dire de payer les impôts à notre ennemi? Donc, ceux qui étaient autour les ont empêchés de saisir la vie éternelle que Jésus leur apportait. Et beaucoup de gens, à cause de ce qui est autour, à cause de l'orgueil, parce que c'est l'orgueil tout ça, l'orgueil te fait oublier la priorité. C'est ça le problème de l'orgueil. Tu inverses les priorités, tu commences à t'intéresser à ce qui est superficiel. Un homme si intelligent comme Naaman, si expérimenté, a été quand même influencé par l'orgueil. Pour dire non, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas accueilli comme un homme puissant. Je rentre chez moi. Malgré tous les kilomètres, vous vous imaginez, malgré tous les kilomètres. Tout ça pour nous dire, bien-aimés, beaucoup de gens rateront le salut de très près. Donc, il est déjà arrivé là. Là où sa guérison devait lui être donnée. Il est arrivé. Il a fait des kilomètres et il allait faire demi-tour. Beaucoup de gens rateront le salut de très près. Vous savez, il y a des choses, tu te dis, on s'est souvent dit, ah, si je savais. Mais tu le savais, les phrases qu'on sort souvent quand on dit, si je savais, en général, on savait. Il fallait qu'on dise, ah, si je m'étais humilié. Ah, si je m'étais humilié. Maintenant, imagine que ce cri t'atteigne, tu es déjà en enfer. Voyage aller simple, il n'y a pas de retour. Ah, si je savais. Quand encore ce cri t'atteint alors que tu as loupé la finale du 100 mètres de Usain Bolt. Tu sais que tu peux faire ça s'appelle comme un replay. Donc, tu peux retrouver ça sur YouTube, chercher la finale 100 mètres. Mais là, c'est un voyage aller simple. Donc quand tu débarques, il n'y a plus d'avion pour te ramener. Ah, si je savais, mais c'est trop tard. Juste à cause de l'orgueil. L'orgueil est très dangereux. L'orgueil va faire louper le salut. Vous savez, le salut, ce n'est pas seulement aller au ciel. Hein. Parce que certains chrétiens sortent aussi du plan de Dieu. Et c'est un manque de salut. C'est-à-dire qu'il a peut-être un salut, une sorte de ticket pour aller au ciel, mais sur terre, il ne vit pas le plan de Dieu et il va en souffrir. Or, le salut, c'est complet. Ce n'est pas que le ticket pour aller au ciel. C'est un bonheur sur terre, une paix sur terre, une assurance, une production de fruits dignes du Saint-Esprit sur terre. Et beaucoup vont louper ce genre de salut que Naaman pouvait louper, qui était un salut terrestre, mais il pouvait louper ça par orgueil. Peut-être qu'il allait un jour se rappeler de ce Dieu-là pour se convertir, on ne sait pas. Mais là, il allait louper le plan de Dieu pour lui, la guérison, juste par orgueil. L'orgueil qui te fait donner des priorités qui ne sont pas les bonnes. L'orgueil va te dire, mais oui, mais on ne s'occupe pas de moi, on ne veut pas me faire prêcher, on ne veut pas me faire chanter, on ne veut pas me faire ceci. Le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Mais non, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est la relation avec Dieu. C'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas l'homme qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu acceptes que Dieu te conduise? Parce que là, Élisée a-t-il essayé de rattraper cet homme? Non. Élisée n'a pas essayé. C'est quand même, je voudrais dire, sévère. Hein? C'est quand même sévère. Tu sais que cet homme-là va être guéri, mais tu le laisses en aller. Réfléchissez à tout ça. Élisée était conscient qu'en plongeant dans l'eau, Naaman serait guéri. Mais il a laissé quand même repartir. C'est dur. Mais il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est la terrible vérité. Parce que comment quelqu'un, tu peux savoir qu'il va être guéri en plongeant, mais, et il se fâche parce que tu ne l'as pas dit bonjour. Nous, entre nous, on aurait dit quoi? Bon, ce n'est pas grave. Moi, je vais m'humilier pour l'amener seulement à plonger, pour qu'il soit guéri. Parce que la guérison, c'est quand même quelque chose de beau, non? C'est faire du bien à quelqu'un, c'est quelque chose d'important. Mais le plus grand bien que Dieu veut nous faire, c'est purifier nos cœurs. Et si Élisée avait rattrapé Naaman, le cœur de Naaman serait resté un cœur d'orgueilleux, un cœur lourd, un mauvais cœur. À quoi ça sert d'être guéri de la lèpre si notre cœur n'est pas sauvé? Élisée savait qu'en le rattrapant, il allait lui rendre mauvais service. Son cœur allait rester orgueilleux, mais il allait peut-être être guéri physiquement. Et souvent, beaucoup de gens ont dit, « Mais pasteur, il y a un tel qui a quitté l'église et qui souffre. Pasteur, il faut aller le rattraper. » Moi, j'ai dit souvent, bien-aimé, Dieu ne m'a pas appelé à faire du babysitting. Dieu m'a appelé à sauver les humains. Mais on les sauve de quoi? De leur cœur. Si rattraper quelqu'un va l'empêcher d'être dans l'humilité, je ne peux pas le faire. Parce que mon but, c'est de sauver la personne. Ce n'est pas d'avoir un grand nombre dans l'église, mais c'est d'avoir des sauvés. À quoi ça sert de nourrir l'orgueil de quelqu'un en lui faisant croire qu'il est très important? Mais si quelqu'un, ce n'est pas son problème, mais c'est le péché plutôt qui est son problème, nous essayons toujours de rattraper. Il y a deux cas dans la Bible. Il y a le fils perdu, on va lire son histoire à la fin, et il y a la brebis perdue. La brebis perdue a-t-elle été rattrapée? Oui, parce qu'elle s'était égarée. C'est comme quelqu'un qui s'égare par faiblesse, parce qu'un péché l'a rattrapé. On va tout faire pour récupérer cette personne. Mais quelqu'un qui s'égare par refus d'autorité, on ne peut pas rattraper. Parce que c'est l'orgueil qui est le motif de son égarement. Donc chercher à le rattraper, c'est lui faire croire que c'est lui qui est important. Et Élisée n'a rien fait. Il a laissé. À notre époque, qui aurait laissé? Dieu avait des vrais prophètes avec l'Élysée, l'Élie. Ça, c'était les vrais. Ils savaient ce que Dieu voulait chez l'homme. À notre époque de tout ce qui est restaurant du cœur, épicerie sociale, on veut faire la bonté humaine. On va dire, ah mais non, c'est pas grave, je vais le récupérer, qu'il soit guéri. Mais oui, mais tu le guéris, mais il va aller en enfer après. Le problème, c'est son cœur qui doit être sauvé. Il y a des rattrapages qui ne sont pas bons. Il y a un évangéliste qui a dit, le Seigneur a dit dans Matthieu 11, 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seuls les fatigués peuvent être chargés. Quelqu'un qui a encore de la force dans son orgueil ne peut pas être sauvé. Il faut le laisser se fatiguer d'abord. Seule la fatigue peut attirer le salut du Seigneur. Donc, bien-aimés, attention à certains de nos rattrapages qui ne sont que des moyens de perdre des gens encore plus. Faisons plutôt confiance au Seigneur qu'il attendra le moment de leur fatigue pour les récupérer. Parce que ce que nous voulons, c'est les récupérer, mais pour le ciel, et non pas les récupérer pour la terre. Amen. C'est ça qu'il faut faire, récupérer les gens pour le ciel. Or, si notre façon de faire ne les récupère que pour la terre, nous sommes en train de leur rendre un mauvais service. Et Dieu nous jugera un jour. Élisée laissait le monsieur s'en aller. Voilà. Vous savez, quand on était jeune pasteur, on voulait toujours le nombre, faire les choses qui fassent que le nombre soit là. Mais quand on grandit, on finit par comprendre ce qui est écrit dans Apocalypse 7, le salut appartient à notre Dieu. Ce n'est pas toutes les activités que tu vas faire qui vont apporter le salut. Vous savez, l'expérience nous a montré. On a marché avec des frères qui ont confessé Dieu, qui ont fait même des délivrances, qui ont sauvé les gens, qui ont guéri des malades. Mais aujourd'hui, ils sont dans le monde. On a compris que le salut, c'est dans la main de Dieu. Et que nous devons plutôt être à l'écoute de Dieu et travailler. On n'a pas à croire que nos activités sauveront les gens. Nos activités permettent à Dieu d'agir. Mais c'est lui qui tient le salut dans sa main. C'est une relation entre Dieu et les humains. On ne peut pas forcer le salut. C'est l'homme qui doit écouter Dieu et se laisser travailler par Dieu. Ce ne sont pas nos discours. Nos discours ne sont que des tremplins, des moyens que Dieu utilise pour parler à chacun. C'est une relation personnelle. Jésus a été suivi par la foule, mais à la fin, ils n'étaient que 120. À un moment même, il a fait manger 5000 personnes, 5000 hommes. Donc, il y avait plus que ça. Dans les 7000 personnes, il les a fait manger, ils ont suivi, ils ont apprécié son discours. Mais à la fin, ils n'étaient que 120. À un moment, tous ses disciples l'ont quitté pour rester seulement 12, alors qu'il en avait plus de 70. Ce n'est pas le salut, c'est quelque chose de personnel. C'est pourquoi nous ne devons pas forcer cela. Nous ne devons pas bassiner les gens avec des discours, croyant que nos discours vont changer les gens. Nous devons parler de la part de Dieu, c'est tout. Et c'est le Seigneur qui fera son travail. Donc si quelqu'un ne veut pas encore s'humilier, faisons comme Élisée, laissons-le partir. Dieu seul peut rattraper. C'est ainsi que les serviteurs d'Élisée ont eu le courage, de Naaman, ont eu le courage, vous savez, il faut être courageux pour parler à son maître à l'époque. Un général. Il dit, mais maître, nous avons fait des kilomètres pour arriver ici. Ce monsieur ne t'a pas rejeté. Il t'a dit d'aller te laver et de plonger cette fois. Je pense, maître, il était venu, dit qu'avant l'entretien, il faut d'abord un talent d'or, tu aurais donné. Avant l'entretien, il faut 10 cycles d'argent, tu aurais donné, maître. Si tu avais dit que pour être guéri, il faut qu'il te fasse des incisions sur la peau, tu aurais accepté. Mais là, il t'a donné un commandement très simple qui ne change rien, juste plonger cette fois dans la rivière. En réalité, ce qui a fait fuir Naaman, c'est ce qui devait le rassurer, non, bien-aimé? Ce qui l'a fait fuir, c'est quoi? C'est qu'on ne s'est pas intéressé à lui en tant que général. En réalité, c'est ça qui devait lui faire comprendre que Élisée est un vrai homme de Dieu. Parce qu'il ne craint que Dieu. Il ne craint pas les humains. C'est ça qui devait rassurer Naaman pour dire, tiens, moi je me rappelle quand on était dans le monde, les gens étaient rassurés quand ils allaient chez un féticheur et qu'ils ne demandaient rien. Ah, mais c'est fait, lui, il ne demande rien du tout. Donc ça donne une apparence de sérieux. On se dit, mais oui, donc il ne fait pas du commerce. Parce que tout ce qui est lié au commerce, c'est il y a un peu de la malhonnêteté dedans. Et quand on est face à quelqu'un qui ne demande rien, on est un peu rassuré. On se dit, bon, il ne cherche pas à vendre quelque chose. Donc, normalement, ce qui a rébuté Élisée, c'est ce qui... Non, Naaman, c'est ce qui devait au contraire l'encourager de se dire, mais tiens, il voit bien que je suis un riche. Il ne me demande rien du tout. Il ne fixe aucune condition financière. Il ne vient pas faire du tralala devant moi, les courbettes. Donc, c'est un vrai. Il n'a pas d'intérêt personnel. Non. Au contraire, c'est ça qui fait fuir Naaman. Au fait, c'est son orgueil qui est blessé. Parce que ces gens-là sont habitués à avoir des courtisans autour d'eux. Les généraux, les présidents, les ministres, ils sont habitués à avoir des courtisans. Maintenant, quand ils sont face à quelqu'un qui ne fait pas le courtisan, au lieu de dire « c'est la personne à qui je dois faire confiance », parce qu'il ne me fait pas des courbettes, ils se disent « Oh non, il ne se plie pas devant moi. Il ne fait pas comme je veux. » C'est ainsi qu'aujourd'hui, les gens veulent que nous changions le message de l'Évangile. Ils veulent que nous nous adaptions à notre époque. Non, le message de l'Évangile a été déjà fait une fois pour toutes. On ne peut pas le changer pour mettre les gens à l'aise. Nous devons dire la vérité parce que c'est la vérité qui sauve. Élisée l'a laissé repartir. Parce qu'il savait que c'était la vérité qui sauvait. Cet homme devait s'humilier pour recevoir la guérison. Il devait s'humilier. Parce que c'est Dieu qui donne la guérison, ce n'est pas Élisée. Et Élisée l'a laissé repartir. Mais les serviteurs ont dit, « Maître, ce qui te fait fuir, au contraire, c'est ce qui devait te rassurer. Maître, il ne t'a pas demandé quelque chose de compliqué. Juste plonger cette fois. Juste parce qu'on ne t'a pas respecté comme général. Voilà ce qui te déplaît. Mais qu'est-ce que lui te demande ? Alors moi, j'ai souvent posé la question suivante. Qu'est-ce qui gêne en ce qui concerne Jésus ? Je parle aux gens qui n'ont pas encore cru en Jésus. Qu'est-ce qui vous gêne ? Il est dit que Jésus est venu donner sa vie pour nous tous. Il est dit que Jésus nous aime. Alors, je n'ai jamais vu un footballeur ni une star de cinéma refuser que les gens l'aiment. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut refuser l'amour de quelqu'un d'autre. Et qu'il ne cherche pas d'intérêt. Donc Dieu ne cherche pas d'intérêt auprès des humains parce qu'il a tout, il est tout puissant. Alors comment on peut refuser Dieu alors que lui ne veut rien te prendre? Au contraire, c'est lui qui veut te donner. Il dit qu'il t'aime. Dès le départ, il dit qu'il t'aime. Comment peux-tu le refuser? Il y a une incompréhension là. L'incompréhension, c'est dû à quoi? C'est dû à ceux qui se disent représentants de Dieu. Il y a des faux et des vrais. Mais le problème n'est pas là. La question est que tout seul, dans ta chambre, dans ton coin, tu dises, mais Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et laisse-moi te suivre. Mais si on ne fait pas cette démarche, on se contente de dire, mais c'est flou ces histoires de Dieu, on ne sait pas qui est qui, c'est flou, je ne fais rien. Un jour, on pâtira, on souffrira du jugement. Prenons quand même au sérieux notre vie en disant, mais si Dieu existe, je vais lire la Bible et savoir. Il faut faire quelque chose. Et on a expliqué à Élisée, il faut faire quelque chose. Comment tu sauras que cet homme est faux si tu ne plonges pas cette fois? Vas-y, plonge. Il a plongé cette fois, il a été guéri. Et finalement, il est venu donner le trésor à Élisée. Élisée, en vrai serviteur de Dieu, il a refusé. Il a dit, les miracles de Dieu, ça ne se marchande pas. Dieu t'a guéri, c'est gratuit. Tu retournes avec ton or, tu retournes avec ton argent. Et le monsieur était tellement surpris qu'il est passé de la conversion physique, c'est-à-dire de la guérison plutôt physique, à la guérison spirituelle. Au début, il était venu pour une guérison physique, mais surpris par l'attitude d'Élisée, le représentant de Dieu, qui, malgré la guérison, ne lui demande pas une seule pièce d'argent, il dit, je veux maintenant même me convertir spirituellement, être guéri de mon cœur, purifié de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je n'adorerai que ton Dieu à toi, Élisée. C'est lui le véritable. Je n'ai jamais vu un homme comme toi. Ton Dieu est le véritable. Il m'a guéri. Et en plus, toi, tu ne prends pas d'argent. Tu montres que Dieu seul est grand. Pardonne-moi si je dois accompagner mon roi dans la maison de son Dieu, mais moi, c'est toi seul. Et ton Dieu seul que je veux adorer. Et cet homme est reparti avec les deux, et la guérison physique et la guérison spirituelle. Et beaucoup passent à côté de ces deux-là. Le plan de Dieu sur terre et le salut éternel par orgueil. Humilions-nous devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas orgueilleux, mais ce qui me gêne, c'est que je ne veux pas venir à Dieu sachant que j'ai encore le goût du péché. Je ne me sens pas fort pour tenir le coup. Mais Dieu justement te dit que c'est lui qui te sauvera, qui t'aidera. Il y en a qui se disent, mais il y a trop de règles. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais il n'y a pas que des règles. Même ces règles-là sont données pour les gens qui sont transformés. Donc quand toi tu viendras à Dieu, tu seras transformé. Alors j'ai eu un exemple hier soir, quand j'entendais les gens dire, il y a trop de règles. L'exemple qu'on m'a donné, c'est l'exemple des gens qui, vous savez, traversent certains pans, certains morceaux de la mer Méditerranée pour venir en Occident. Dans des barques, dans des embarcations de fortune. Parfois, aujourd'hui, ils commencent à traverser, vous savez, les piscines gonflables. Voilà, ils commencent à traverser la Méditerranée avec des piscines gonflables. Et beaucoup meurent. Alors on m'a posé la question, ces gens-là, quand ils viennent en Occident, ne savent-ils pas qu'il y a la police en Occident? Ils le savent. Ne savent-ils pas qu'en Occident, il est interdit de frauder? Ils le savent. Ils savent qu'en Occident, c'est interdit de voler. Ils savent qu'en Occident, c'est interdit de mentir. Ils savent que qu'il y a des règles ici en Occident. Mais ils prennent le risque de mourir en chemin pour arriver en Occident. Pourquoi? Parce qu'en Occident aussi, il y a la vie. Ils savent que là-bas où ils sont, ils ne peuvent plus manger, ils n'ont plus de nourriture, qu'ils vont mourir. Ils savent qu'en Occident, il y a la nourriture. Même si en plus de la nourriture, il y a des soldats, il y a des policiers, il y a des contrôles, vous savez. La vie en Occident, ce n'est pas comme la vie en Afrique, où il y a des gens qui peuvent faire une année avec de l'électricité sans payer. Donc ici, les factures doivent être payées sérieusement. Les choses sont suivies à la lettre. Chaque mois, tu dois honorer les choses. Tu gares mal ton véhicule. Contravention. En Afrique, il n'y a pas de contravention dans certains endroits. Tu peux te garer quelque part tranquillement. Alors, ils sont plus ou moins au courant qu'il y a toutes ces règles ici en France. Mais pourquoi ils mettent leur vie en péril pour venir en France? Parce qu'ils savent qu'ici, ils vont manger. Et donc, ils vont avoir la vie. Alors, même si on sait que dans la vie chrétienne, il y a, entre guillemets, ce que les gens appellent interdit, on vient quand même. Parce que dans cette vie-là, il y a la vie. Dieu change les cœurs, Dieu nous transforme, et on devient capable même de vivre dans ces règles-là sans problème. C'est la même chose. Pourquoi fuir en disant, mais il y a des interdits, mais non, mais ces interdits-là donnent la vie. Que l'on ne grille pas un feu rouge. Où est le mal dans ça? Qu'on ne dépasse pas 130 km/h. Où est le mal? Pourquoi fuir la France? Parce qu'il y a ces limitations. Ces limitations sont là pour la sécurité, elles ne sont pas là pour embêter. Il ne faut pas fuir la vie chrétienne en se disant, ah ben je ne pourrais plus faire telle chose. Mais non, quand Dieu dit que tu ne vas pas faire telle chose, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour lui. Examine ces choses-là. Tu te trompes. Dans la vie chrétienne, il y a la vie. Dieu te crée de nouveau. Tu n'es plus le même. Il prend en charge toute ta vie. C'est vrai que dans la vie chrétienne, on ne peut pas travailler dans le noir. Mais si toi, tu étais à la place des autorités du pays qui ont besoin d'argent dans les impôts, est-ce que tu accepterais que les gens travaillent dans le noir? Non. Pourquoi toi, tu veux faire ça alors que les autres sont des autorités? C'est logique. Ce sont ces mesures-là qui garantissent l'ordre dans le pays. Imaginez qu'en France, il n'y ait pas de règles. Est-ce qu'on serait tranquille en étant ici? On aurait peur que nos maisons soient cambriolées pendant qu'on est ici. Mais on se dit, il y a une vraie police, il y a des vraies enquêtes, ça nous rassure. Mais s'il n'y avait pas ces règles-là, donc vouloir une vie chrétienne sans règles, mais ce n'est rien changé finalement. Donc rester tel qu'on était avant. Non, c'est une nouvelle vie avec des règles de vie. Les règles de la police ne sont pas là pour enlever la vie, mais c'est pour protéger la vie. Respecter le feu, respecter les limitations de vitesse, ne pas voler son prochain. Ce sont des règles qui permettent même de vivre heureux. Parce que si on est dans un pays où on peut voler ses biens, vous imaginez le désordre. On peut voler les biens d'autrui. Vous imaginez le désordre que ça va faire. On vole, mais on n'est pas arrêté. On tape et on n'est pas arrêté. Nous allons appeler ces pays-là des pays sauvages. C'est normal, bien-aimé, que quand on devient chrétien, on ne peut pas taper quelqu'un. Comme on voit à la télévision, des gens qui tapent tranquillement, parce que c'est faire du mal à son prochain. Où est le mal à ce qu'on ne fasse pas du mal à son prochain physiquement? Ces règles-là sont des règles d'amour et de vie. Ce ne sont pas des règles qui tuent la vie. Au contraire, ça sécurise et ça produit la vie. Aujourd'hui, ne fais pas comme certaines personnes qui sont passées si près du salut et qui ne l'ont pas saisi. Ressaisis le salut. Géasi, le serviteur d'Élisée, on ne va pas relire, c'est très long. Il était près du salut. Il était chaque jour avec Élisée. Chaque jour. Mais il n'a pas saisi le salut. Il est parti demander l'argent alors que Élisée avait refusé. Et il a attrapé la lèpre. Ça, c'est une leçon pour tous ceux qui veulent faire du commerce avec les choses de Dieu. On ne fait pas du commerce avec les choses de Dieu. Dieu guérit gratuitement, il libère gratuitement, il sauve gratuitement. Quand on fait du commerce, on est en train d'hériter les malédictions des gens que nous sauvons. Et là, il a été sauvé de la lèpre. Géasi a voulu faire du commerce avec ça, c'est lui qui a hérité de la lèpre. On ne fait pas du commerce avec les choses de Dieu. C'est aussi une leçon pour ceux qui se disent chrétiens depuis longtemps. Tu peux être depuis longtemps chrétien et ne pas saisir les choses de Dieu. Géasi était avec le prophète Élisée depuis longtemps, mais il n'avait pas du tout saisi. C'est ça la réalité. Il était même contre la vérité d'Élisée parce qu'Élisée a dit non pour prendre l'argent. Lui a dit, mais pourquoi on ne prendrait pas l'argent? Voilà. Il était même contre. Je vous dis, bien-aimés, Dieu utilisera les hommes. Mais nous sommes libres d'accepter les choix de Dieu ou pas. Géasi avait Élisée à côté de lui chaque jour. Il ne s'en est pas occupé. Il n'a pas pris Élisée au sérieux. Et il a eu la lèpre, il a mal fini. Mais Naaman a voulu s'entêter, mais il s'est humilié parce qu'il a compris que c'est Dieu qui voulait les choses ainsi. Et il a été sauvé doublement. Faisons attention à l'œuvre de Dieu dans notre vie. L'œuvre de Dieu passera par les humains. Prenons au sérieux la manière dont Dieu nous parle. Même si on est pasteur, Dieu nous parle aussi par les humains. Prenons au sérieux la manière dont Dieu parle. Prenons au sérieux Dieu. Ne passons pas si près du salut sans l'avoir. Comme l'apôtre Paul s'est écrié, comment peut-on rater un si grand salut? Il y en a qui diront en enfer, mais Mon mari était pasteur, mais oui. Tu n'as pas saisi, malheureusement. Il y en a qui diront, on a des exemples dans la Bible, dans Matthieu 7. Nous avons chassé les démons, mais oui. Mais tu n'as pas saisi toujours. Tu as été comme Géasi. J'ai parlé en langue, oui, mais ça ne qualifie pas pour le ciel. C'est la vérité qui qualifie pour le ciel. Le changement de cœur. Humilions-nous devant cette vérité-là. Laissons Dieu nous sauver. Nous lisons le dernier texte dans Luc 15. Luc 15, c'est l'image du salut par excellence. L'homme n'a plus voulu de Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Mais nous étions tous dans ce cas-là. Mais un jour, on prend conscience que cela suffit. Je suis en train de mourir, je suis en train de me détruire. Je viens à Dieu. Il dit encore au verset 11, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voilà l'état de l'humain sur la terre. À un moment donné, il croit que la vie, ça lui appartient. Il croit que son argent, c'est à lui. Il croit que ses bras sont à lui. Or, c'est Dieu qui l'a créé. Et il dit, je vis ma vie comme je veux. Mais ça finit toujours mal. Mais il ne faut pas attendre que ça aille très loin dans la souffrance. Juste quand on commence à sentir qu'on perd le nord, revenons à Dieu pour dire, bon non, moi je ne veux pas que ça aille très loin. Reprends-moi, oh Dieu. Mais nous voyons que c'est écrit que le papa l'attendait depuis longtemps. Dieu t'attend depuis longtemps. Il veut te récupérer pour faire de toi son enfant. À nouveau, si tu l'étais, de nouveau, plutôt si tu l'étais, ou pour la première fois que tu deviennes son enfant, pour vivre la véritable vie en sécurité ici sur terre. Et pour le ciel aussi. Voilà le message de l'Évangile. Ne ratons pas le salut alors qu'il est si près de nous. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
La voix du Seigneur m'appelle.
Et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.